Imaginez une maladie numérique qui se propagerait au sein d'un jeu vidéo massivement multijoueur. Imaginez maintenant qu'elle soit si terrifiante qu'elle puisse transformer un monde conçu pour être idyllique au point d'en faire une nécropole de la peur. Voilà en quelques mots les ingrédients parfaits d'un bon scénario d'anime ou de manga façon Sword Art Online ou encore .hack. Et pourtant, c'est dans notre réalité et non dans une fiction que s'est déclarée l'affliction du sang vicié, une maladie qui a décimé des centaines de milliers d'avatars sur World of Warcraft pendant plusieurs semaines. Et pour comprendre d'où vient ce mal sans précédent, il faut comprendre son fonctionnement. Un peu de contexte. L'histoire se déroule en septembre 2005, une période durant laquelle World of Warcraft fait exploser tous les records de son genre, le MMORPG. Faut rappeler qu'avant lui, les MMO c'était un genre un peu rustre et complexe qui demandait un investissement conséquent en temps et en argent, mais aussi pas mal de notions d'anglais. Et puis avec l'internet illimité qui commence à se développer au début des années 2000, on a vu arriver des MMO plus jeunes, plus colorés, plus accessibles. World of Warcraft, c'est la fusion parfaite de ces deux courants. Un jeu à la fois profond, complet, qui peut être complexe aussi, mais qui reste accessible avec son style un peu cartoon et son univers terriblement prenant. En 2004, à sa sortie, c'est une gigantesque baffe, et le fait qu'il soit depuis cloné à l'infini, par ses concurrents, sans trop de succès d'ailleurs, prouve bien qu'il a transcendé son genre. Pour beaucoup de joueurs, World of Warcraft, c'est le tout premier monde persistant qu'ils explorent. C'est leur premier roleplay, leur première guilde, leurs premières instances. Certains y vivent même presque par procuration, ils sont passionnés et même happés par un monde qui va pourtant chavirer dans l'horreur pendant plusieurs semaines. Car en septembre 2005, les développeurs implémentent une nouvelle aventure à vivre, le raid de Zul'Gurub. Zul'Gurub, c'est un nom troll, les trolls de World of Warcraft. Ils sont agressifs et bestiaux. What you looking for? Avec les elfes, les nains, les humains, les orques ou encore les taurennes, ils forment les peuples d'Azeroth, dont on va découvrir les histoires au fil des quêtes. Et quand Blizzard rajoute le raid de Zul'Gurub, c'est donc l'histoire des trolls que l'on va ici creuser. Dans ce temple abandonné et hostile, on parcourt des zones infestées de monstres. Et le climax du raid, c'est même l'affrontement contre une véritable divinité, Akkar, l'écorcheur d'âme, dieu du sang, nommé le sang-visage. Dans le lore du jeu, il est responsable de la chute de l'empire Gurubashi, et c'est plutôt amusant de se dire qu'il va aussi provoquer la chute de tout World of Warcraft cette fois-ci, pendant plusieurs semaines. Son combat, il va se régler comme la plupart des combats de boss dans World of Warcraft. Il faut bourrer efficacement, gérer qui est ciblé, qui soigne les troupes et qui fait les gros dégâts. Et comme à chaque fois avant un boss, c'est important de se renseigner pour savoir si ce bon vieux Akkar a une botte secrète. Et justement, il en a une très particulière. En effet, l'oiseau géant peut, de temps en temps, infecter ses assaillants avec une maladie, le fameux sang vicié, qui donnera son nom à la future épidémie dont il est l'origine. Le sang vicié, c'est tout simplement un malus qui fait des dégâts sur le temps. Vous le contractez, le subissez, et suivant votre jauge de vie, vous y survivez ou succombez. Pour prévenir de l'infection, il y a une sorte de gerbe de sang qui sort de votre personnage, comme s'il crachait de l'hémoglobine, et le souci, c'est que ce sang-là, il est hautement contagieux. C'est vraiment ça la subtilité du combat contre Akkar. Si vous faites pas attention, vous pouvez très facilement infecter vos 19 potes du raid durant le combat. Techniquement, la maladie du sang vicié ne dure qu'une dizaine de secondes, durant lesquelles vous allez prendre régulièrement des dégâts. Le piège, c'est donc de ne pas s'en rendre compte, d'infecter vos potes, qui seront contagieux eux aussi pendant 10 secondes, et qui pourront donc vous réinfecter pendant 10 secondes, et ainsi de suite. Si le groupe ne réagit pas correctement, ça peut anéantir toute l'équipe. Très naturellement, les raids vont donc trouver la parade. Les infectés s'isolent pendant une quinzaine de secondes, et sont soignés par les healers de l'équipe. Dans les premières heures suivant la mise en ligne du raid de Zul'Gurub, les groupes se sont donc frottés au sang vicié, y ont survécu et ont battu Akkar.
Nice. GG, boys.
En quittant la zone, le sang vicié n'est pour eux qu'un souvenir. Et pourtant, quelques minutes plus tard, le carnage va commencer et l'épidémie va démarrer. Dans les villes comme Ironforge, Stormwind, Orgrimmar ou encore Undercity, la peste va se répandre à une vitesse hallucinante et l'on ignore pourquoi. À vrai dire, la majorité des joueurs ignore même quelle est cette étrange maladie, puisqu'elle vient tout juste d'être introduite dans le jeu pour du contenu à un niveau relativement haut. Quand le sang vicié ravage donc les capitales, c'est l'apocalypse. Et ces capitales, elles sont le centre névralgique de chaque faction. Hein. Elles sont toujours blindées de monde, les gens qui la parcourent sont de tous horizons et surtout de tous niveaux. Face à la maladie, les joueurs au niveau les plus faibles meurent en quelques instants, en courant affolés, ne comprenant pas vraiment ce qui leur arrive. Les joueurs plus expérimentés, quant à eux, tiennent assez longtemps pour chercher du soin ou aller voir des marchands et autres personnages non-joueurs en quête d'un remède. Sauf que, là encore, mauvais move. Outre les contaminations que ça engendre sur les joueurs qu'ils croisent, les infectés contaminent aussi les PNJ du jeu, qui deviennent alors des porteurs sains. Et comme ces derniers ne peuvent pas prendre de dégâts de la maladie, mais sont quand même des vecteurs de contamination, eh bien ils vont infecter des centaines et des centaines d'autres joueurs durant des heures. Même les petits PNJ qui déambulent tranquillement dans les villes sont atteints et se transforment alors en véritables bombes virologiques qu'il faut alors fuir comme la peste. Dans les rues, les cadavres squelettiques, qui restent quelques heures dans World of Warcraft, commencent à s'empiler anormalement dans des zones qui pourtant sont synonymes de répit et de vie fourmillante. Le virus fait des ravages partout où il va, et les voyages entre les continents n'aident pas à l'endiguer. Quelques heures seulement après la première contamination en dehors de Zul'Gurub, on voit apparaître des comportements pour le moins troublants. Certains membres de l'Alliance ou de la Horde essaient d'infiltrer les rangs adverses pour répandre le virus chez l'ennemi.
We should take it to AB and spread it to the Alliance.
Oh, I'm not immune to it anymore.
That'd be pretty funny.
À l'opposé de ça, d'autres joueurs, paniqués, essayent de s'isoler en campagne, loin des villes, afin de continuer à jouer, loin du vacarme et des contaminations. Mais qu'ils agissent par ignorance, indifférence ou par curiosité malsaine, les joueurs contribuent tous à la propagation du virus. Et seule une poignée d'aventuriers essayent de véritablement soigner les joueurs et de juguler l'épidémie. Face au conseil de Blizzard, qui recommande alors de se mettre en quarantaine, loin des autres, certains préfèrent tout simplement se déconnecter pendant quelques jours, se disant que ça finira par passer rapidement. Sauf qu'en cuisine, chez les codeurs de Blizzard, le problème et son origine ne seront identifiés qu'au bout de longues journées de recherche. Et la solution à déployer s'annonce très complexe.
Be cool, man.
En septembre 2005, lors du sang vicié, en interne chez Blizzard, c'est la panique. Le jeu est lancé depuis moins d'un an, il représente un investissement colossal pour la boîte, et alors que le succès bat son plein, on se retrouve dans tout ce bazar pendant des jours. Le jeu est cassé, il faut impérativement le réparer, et il faut faire ça très très vite. Après les recherches, les ingénieurs finissent par comprendre d'où vient le souci. En effet, dans le raid de Zul'Gurub, tout le monde peut attraper le sang vicié. Les joueurs, mais aussi leurs familiers. Et oui, les chasseurs et les démonistes ont en effet la faculté d'invoquer une créature qui les aide en combat. Sauf que ces créatures peuvent aussi choper des bonus, mais aussi des afflictions, des malus et notamment le sang vicié. Et une fois le combat contre Akkar remporté, certains chasseurs et démonistes ont immédiatement renvoyé leurs invocations. Sauf que cette action a en quelque sorte stocké le sang vicié. La maladie n'a pas disparu et a juste été mise en stase, alors qu'elle aurait dû être éradiquée automatiquement en sortant du raid. Donc forcément, lorsque les chasseurs et les démonistes arrivent en ville après le raid et réinvoquent leur créature au milieu de centaines de joueurs, bah la maladie elle se propage et elle fait un carnage. Tout part donc de là, de cette erreur de design, d'un bête cas de figure très particulier qui n'a malheureusement pas été testé avant la mise en ligne du raid de Zul'Gurub. John Cash, l'ingénieur en chef chez Blizzard à ce moment-là, est d'ailleurs revenu sur cette période difficile dans les colonnes de PC Gamer. Il dit « Même lorsque nous avions compris ce qui se produisait, c'était très difficile de le corriger. Nos options se résumaient à analyser tous les familiers de toutes les régions sur tous les serveurs et regarder s'ils avaient le sang vicié et le supprimer à la main. Ou alors, autre option, on pouvait aussi développer en catastrophe un code très intrusif qui vérifiait la présence de la corruption et qui s'en débarrassait. » C'est finalement presque un mois plus tard, le 8 octobre 2005, que le remède est trouvé et déployé. Et tandis que le service client de Blizzard reçoit chaque jour des centaines d'appels, l'équipe technique met en ligne deux patchs. Le premier empêchera la maladie de contaminer les familiers, et l'autre éradique tout simplement le sang vicié de la totalité des serveurs. Le jeu peut donc reprendre sa vie et les joueurs peuvent de nouveau se recroiser sans craindre la propagation. Loin d'être un mauvais souvenir, l'épidémie est devenue une période mythique de l'histoire de World of Warcraft, à tel point que différents éléments y font aujourd'hui référence, pour le plus grand plaisir des anciens qui peuvent dire « j'y étais ». Et mine de rien, quand on y repense, c'était la première fois qu'au sein d'une œuvre systémique, calibrée et balisée, un imprévu de cette ampleur arrivait à faire autant de dégâts. Et au lieu de plomber le jeu, cet événement, appelé l'incident du sang vicié ou la peste du sang corrompu, a donné une autre dimension à World of Warcraft, le faisant briller au-delà de la sphère vidéoludique et intéressant même les plus grands scientifiques et épidémiologistes. Deux années après l'événement, les chercheurs Nina Pfefferman et Eric Lofgren ont livré une analyse structurée et documentée du phénomène. Leur intérêt, c'est surtout l'aspect comportemental, rarement observable en temps d'épidémie, et qui, ici dans un contexte virtuel, livrait des données et des tendances jamais observées auparavant. Lovegren pense notamment que l'épisode du sang vicié nous aide à réaliser que les mesures sanitaires ne sont pas forcément suivies à la lettre durant une crise, et ce, même par les personnes les plus à risque. Un constat qui sera observé à grande échelle lors de la pandémie de coronavirus 16 années plus tard. La scientifique Nina Pfefferman déclare quant à elle que le fait d'avoir accès aux conversations entre joueurs durant la crise du sang vicié l'a beaucoup aidée durant ses recherches de modèles sociaux en situation de pandémie. On s'en doute pas forcément, mais avoir le contenu du dialogue entre les individus à cet instant-là et observer les conséquences comportementales immédiates de tel ou tel type de message, ça représente des données inestimables pour les scientifiques. Les résultats étaient d'ailleurs si intéressants que le duo de scientifiques a proposé que l'on introduise d'autres maladies, moins mortelles évidemment, dans un écosystème comme celui de World of Warcraft. Malheureusement pour eux, Blizzard n'a pas souhaité donner suite à cette proposition. Quoi qu'il en soit, cet épisode du sang vicié a permis à World of Warcraft de devenir bien plus qu'un simple jeu vidéo au roleplay empreint d'Heroic Fantasy. Comme le résume si bien la scientifique Nina Pfefferman au sujet de la crise, pendant un instant, les gens ne jouaient plus roleplay, ils étaient tout simplement eux-mêmes.
Retrouvez d'autres histoires sur JV ou sur YouTube @JVLegends.